Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions ce n'est pas ce qui manque, Okapi Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Okapi Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, dans le Kinshasa.
Parmi les mots qui gangrènent le secteur universitaire congolais, on cite notamment le favoritisme. Selon plusieurs témoignages, les étudiants ne sont pas traités sur un pied d'égalité. Certains, compte tenu de leur appartenance tribale, position sociale ou des liens de parenté avec le corps enseignant, bénéficient de quelques privilèges, surtout pendant cette période de session. Alors, comment lutter contre ces antivaleurs? Célestin Dimanja, vous êtes professeur à l'Université catholique du Congo. Bonjour.
Bonjour.
Alors, la première question est de savoir qu'est-ce qu'on entend par favoritisme.
Bon, merci pour la question. Le favoritisme est une antivaleur, comme vous venez de le dire. C'est la pratique qui consiste à privilégier des gens qui ne méritent aucun privilège. Par exemple, ça peut s'assimiler à une tendance tribaliste. Les gens de mon coin, les gens de ma famille,
les
ressortissants de la même contrée que moi, j'aurais tendance à les privilégier au dépend d'autres personnes. Ça, c'est une mauvaise pratique.
Oui.
Je crois qu'il faut insister là-dessus.
Alors, professeur, comment expliquez-vous comment cette pratique s'est installée, a pris corps dans le milieu universitaire?
Bien, ça demande une petite enquête, mais je crois savoir qu'à un moment donné, sous des dehors apparemment nobles, on avait introduit le système, par exemple, de quotas. À un moment donné, on dit les diplômés les plus nombreux viennent de telle province ou de telle autre, il faut un effort pour permettre aux provinces qui ne sont pas suffisamment représentées d'avoir un plus libre accès à l'université. Ça, c'est un élément qui a contribué au favoritisme, parce que les critères objectifs n'étaient plus mis en avant. On commençait à vouloir combler ce qui a été perçu comme de retard pour certaines parties du pays. Je dis, ce sont des dehors nobles, en ce sens que l'autorité peut avoir effectivement comme préoccupation de pratiquer l'égalité, mais quand l'égalité se fait au détriment d'une autre partie de la population, c'est aussi du favoritisme.
Et d'après les informations reçues, cela revient souvent pendant la période de session. Comme actuellement, il y a plusieurs étudiants qui sont en train de passer la session, d'autres préparent leurs travaux de fin de cycle. Et c'est pendant cette période que cette pratique prend de l'ampleur.
C'est fort probable. Mais ça signifie que là aussi, on ne tient pas à respecter les critères, le règlement de l'université. Favoriser un étudiant sous prétexte qu'il est de votre tribu, votre province, votre région, même s'il ne connaît rien, on ne rend aucun service au pays. Donc je crois que si cela arrive pendant les sessions, c'est pendant les sessions ou juste avant qu'il faut insister auprès des enseignants pour qu'ils acceptent de respecter la loi universitaire, le règlement des différents établissements dans notre pays. Donc, je ne dis pas que la session est une période propice. Au contraire, c'est la période pendant laquelle on pratique l'évaluation. Et pratiquer l'évaluation, cela implique de devoir non seulement sur les personnes qui sont évaluées, mais aussi et surtout sur les évaluateurs, donc les professeurs et les assistants.
Oui, nous avons également, d'après certaines les informations reçues, il y a un concept, un phénomène qu'on appelle « enfant d'abord » dans les universités, c'est-à-dire lors de l'idée, on privilégie les enfants des professeurs, même s'ils ont échoué, bon, on ferme les yeux, bon, on s'arrange, par solidarité, les professeurs s'arrangent pour faire passer leurs enfants. Alors comment lutter contre cela?
Je m'excuse de vous dire que ça fait pratiquement 20 ans que j'enseigne à l'université. Je n'ai jamais participé à un conseil de délibération au cours duquel de tels principes aient été émis. Donc les enfants d'abord, je ne crois pas que c'est devenu une règle d'or dans les milieux universitaires. Et là-dessus, j'aimerais attirer l'attention des auditeurs sur le fait que quand vous prenez la population estudiantine dans n'importe quelle université, dans n'importe quel établissement, il est difficile de trouver que les enfants des professeurs sont les meilleurs, qu'ils sont majoritaires ou qu'ils sont parmi les étudiants qui brillent le plus. Je connais par contre des cas dans lesquels certains enfants de professeurs ont été carrément recalés parce qu'ils ne travaillaient pas. On ne les voyait pas régulièrement au cours. Et quand on fait la liste de présence, comme dans les établissements où j'enseigne, moi-même, je fais toujours passer une liste de présence pour m'assurer que les étudiants sont réguliers. Et il m'est arrivé de trouver des enfants de collègues qui ont eu plus de la moitié d'absence. Et pour moi, c'est un signe que, sous ce miracle, un tel étudiant ne peut pas passer. Et ça, ça vaut pour tout le monde, pas uniquement pour les enfants des professeurs.
Alors, professeur Dimanja, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour lutter contre le favoritisme dans les milieux universitaires?
Être rigoureux, appliquer rigoureusement le règlement de l'université, quelle que soit l'université en question. Les règlements sont assez clairs sur la régularité, sur les attitudes à adopter pendant la passation des examens, sur la qualité de réponse, sur la manière de faire passer les examens, la toximologie. C'est connu de tout le monde. Moi, je crois qu'il n'y a pas de miracle. Les règlements que nous avons sont suffisamment clairs et suffisamment rigoureux pour permettre à tous ceux qui travaillent régulièrement de pouvoir passer des classes, de réussir brillamment le faux.
Donc la solution, vous avez dit, c'est d'appliquer rigoureusement le règlement, mais ce qui n'est pas le cas dans certains établissements aujourd'hui. Et nous invitons les auditeurs, vous voulez participer, vous avez des questions, des témoignages, n'hésitez pas, appelez-nous déjà au 081 890 63 94, vous pouvez également nous écrire à service@radiocapi.net.
Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité de Capi Service.
Comment lutter contre le favoritisme dans les universités congolaises? Appelez-nous pour participer au 081 890 63 94. Alors, professeur Célestin Dimanja, pendant cette période, il y a des bouts de papier qui circulent entre étudiants, professeurs, des recommandations à gauche et à droite. Et d'après certaines informations reçues, il y a même certains professeurs qui disent à des étudiants de tel coin du pays, retrouvez-vous, que tous les étudiants, par exemple, des telle province, faites passer le message, passez votre examen avec un stylo bleu ou stylo noir. Alors à ce moment-là, ça me permet de reconnaître les étudiants, les miens, quoi. Alors comment lutter contre ces gens, les pratiques, professeurs?
Ça, c'est une information que vous m'avez donnée. Je n'ai jamais appris qu'il y avait un code de couleur de ce genre-là.
Il y a plusieurs codes qui circulent et plusieurs mots de passe.
Bien, même alors, c'est toujours un comportement de tricherie, de part et d'autre. Soit de la part des étudiants, soit de la part des examinateurs. C'est une pratique à ne pas encourager. Il faut que les étudiants le sachent eux-mêmes d'abord. Leur propre valeur, leur valeur intrinsèque, dépend de leurs efforts, de leur engagement en matière d'études, en matière de préparation et en matière de pratique professionnelle. En dehors de ça, toute autre pratique ne sert à rien, si ce n'est pour précipiter l'avenir de la jeunesse dans des enfers difficiles à décrire.
Andrito, nous avons un auditeur en ligne depuis Yarou, dans la province orientale. Andrito, bonjour.
Je dis bonjour, bonjour à notre invité, bonjour à mes frères et sœurs congolais. Il est vrai que le favoritisme dans le milieu universitaire est une réalité et non un mythe. Et à titre illustratif, dans la plupart des cas, la rédaction de travail de ces cycles des étudiants est faite par les enseignants eux-mêmes, dans le but de gagner de l'argent. Lors de la défense, l'étudiant manque de mots pour s'exprimer. À la fin, le jury le proclame mention grande distinction ou distinction ou satisfaction. Deuxième exemple, monsieur le journaliste.
Oui.
Un étudiant qui ne participe pas au cours réussit très brillamment à la fin de l'année. Alors, on constate que c'est tout simplement le favoritisme. Troisième exemple, c'est l'amitié qui existe entre l'étudiant et le professeur. Il y a beaucoup de professeurs qui sont des amis des étudiants et beaucoup d'étudiants qui sont des amis des professeurs. À la fin des comptes, on le proclame toujours majeure distinction ou plus grande distinction, mais dans la tête, il n'y a rien, monsieur le journaliste. La conséquence, c'est quoi? La conséquence, c'est que le gouvernement congolais est en train de former des incompétents. Ces incompétents formeront aussi des incompétents et rendront des services improductifs. D'ailleurs, ça constitue une bombe à retardement pour ce pays, monsieur le journaliste.
Oui. Merci, Andrito, depuis Yarou. Wélo nous appelle de Kinshasa. Bonjour.
Et bonjour, monsieur.
Nous vous écoutons.
Ok, je disais juste que je devais en fait intervenir pour les universités, plus précisément en formation des corps médicales.
Oui.
Et vous savez que un personnel de santé mal formé est plus qu'un assassin qui n'a pas eu une bonne formation à l'université. Parce qu'un assassin ne tue pas chaque jour, mais un personnel de santé, un infirmier, un médecin, chaque jour, ils n'étaient pas bien formés. Alors, je voulais proposer que l'on puisse renforcer l'administration pour la lutte contre le favoritisme, parce que nous le voyons dans nos instituts, dans les instituts supérieurs et dans les universités, surtout qui forment les personnels de santé et qui vont demain devenir infirmiers ou médecins.
Willow, dites-nous là où, dans, je ne sais pas, pouvez-vous nous donner un témoignage concret dans l'université ou l'institut là où vous évoluez, qu'est-ce qui se passe exactement?
Oui, effectivement, ce qui se passe, le favoritisme, comme venait de le dire le professeur, c'est vraiment praticable. On le pratique surtout en cette période où la délibération, ça va se passer aujourd'hui dans notre université.
Oui.
Je vois les enfants, les filles, les étudiants, en fait, les étudiants parcourent par-ci, par-là, chez les professeurs. Et puis, en fait, par rapport à l'appartenance tribale ou sociale, vraiment, la méritocratie n'est pas prise en compte. C'est ça un peu mon intervention, d'insister sur l'administration dans les universités.
Merci, Wélo. Bruno Diaye est également à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi. Je suis expert de droit. Je voulais juste intervenir pour démontrer les méfaits du favoritisme et l'avantage.
Vous avez été victime une fois ou pas?
Vous dites?
Vous avez été victime de cela ou pas?
Non, pas victime de cela. Mais vous savez que tout étudiant qui échoue dans un cours constate celui qui est non, j'ai échoué parce que on m'a fait le point. Or, en réalité, monsieur le journaliste, les étudiants n'ont pas encore eu la conscience de reconnaître qu'il a échoué parce qu'il n'a pas bien préparé le cours. Et d'abord du côté positif des favoritismes, vous constatez qu'un étudiant qui s'applique très bien dans un cours, et arriver pendant la session, puisque souvent il y a des questions très compliquées à l'examen, et les professeurs connaissent l'étudiant. Et qu'est-ce que les professeurs connaissent? L'étudiant qui s'est bien appliqué dans ses cours, et il a échoué. Et César d'étudiant, c'est pour vous être lui accorder une faveur. Non, voilà, puisqu'il s'applique bien. Et il peut mériter quand même le point, puisqu'on ne peut pas reprendre le coup.
Voilà, Bruno. La oui, Bruno. Là, vous parlez d'un étudiant qui s'applique et qui travaille bien. Alors maintenant, pour celui qui ne s'applique pas, qui ne participe pas au cours, mais à la fin de l'année, il réussit avec très grande distinction.
Non, mais là, il y a maintenant un problème. Il y a d'autres étudiants qui ne participent pas au cours, mais qui étudient beaucoup depuis que c'est là qu'ils participent au cours. Dès qu'il rentre à la maison, ou bien il photocopie les notes, la nuit, il se concentre, il étudie, et même les matins, lorsqu'il vient au cours, pendant les heures de cours d'encadrement avec les autres étudiants, il explique très bien les notions par rapport aux gens qui ont participé au cours. Donc, ce système-là, en tout cas, il faut bien les maîtriser, il faut bien les comprendre. Qui est cet étudiant-là, qui se fait qu'il n'a pas bien, reçu au cours. Pourquoi il n'a pas bien reçu? Pourquoi il n'a pas obtenu beaucoup de cotes? Mais ce n'est pas dit que non, parce que tel a relation avec tel qui l'a eu à travailler très bien dans ce cours, ou bien il a eu beaucoup de fait. Non, ce n'est pas ça.
Ce n'est pas ça. Merci Bruno. Merci Bruno. Professeur Célestin Limandia, vous avez suivi toutes ces réactions et les questions des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Je crois que pour ceux qui dénoncent des situations anormales, comme celle que le premier avait décrite, où l'étudiant échoue simplement parce que il n'est pas de tel ou tel, ou parce que moi j'ai été frappé par le cas de travaux de fin d'études, hein, l'étudiant qui ne fait même pas son travail lui-même et qui pendant la soutenance ne se retrouve pas dans ce qu'il a, il est censé avoir écrit lui-même. Mais tout le monde sait que en ce moment-là c'est faux, c'est sur de mauvaises bases. On a institué le système de soutenance de mémoire précisément pour s'assurer, entre autres, que l'étudiant a réalisé le travail lui-même. Mais quand on se rend publiquement compte qu'il ne se retrouve pas dans ce qu'il a écrit, hein, on m'a cité le cas d'un étudiant qui a utilisé un mot dans un mémoire, on lui dit « mais qu'est-ce que ça signifie ?» et il ne faisait que répéter le mot, hein, c'était la convivialité. La convivialité, jusqu'au bout, tout le monde se rend compte qu'il ne comprend pas
ce
mot qu'il a utilisé.
Oui.
Mais à la fin, on lui a dit que ça ne valait pas la peine et qu'il devait refaire son mémoire. Il a été renvoyé à la deuxième session. C'est dans une université, ici à Kinshasa. Alors, si ailleurs, malgré ce manque de compétences, on laisse passer l'étudiant, c'est clair que les étudiants ont raison de se révolter. Et c'est là que nous creusons notre propre tombe. Moi, je crois, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'on a intérêt à expliquer aux étudiants les objectifs de différentes sortes d'évaluations, qu'ils se laissent imprégner par ça, et qu'ils pratiquent, qu'ils appliquent les consignes des enseignants dans leurs travaux, dans leurs CP, dans leurs mémoires, et même dans leurs thèses. Ça, c'est extrêmement important. Sans cela, effectivement, comme le disait quelqu'un d'autre, nous serons en train de préparer le pire à venir pour le pays. Et c'est une honte générale, c'est la mort programmée du pays.
Bien. Dadi Matambo nous appelle de Kinshasa et Luc Minda se trouve à Kolwezi dans la province du Katanga pour participer. Vous voulez également intervenir, appelez-nous au 081 890 63 94.
C'est parce que Radio Kapuin et le Congo que vous êtes concerné par cette émission. Habitants de toutes les provinces, parole aux auditeurs et votre émission. Chaque jour de 11h à midi, heure de Kinshasa, le mercredi de 10h à 11h, vous donnez votre avis sur les grands thèmes de l'actualité ou les petits fracas de la vie de tous les jours. À vous aussi de proposer des solutions. Parole aux auditeurs, une émission à réécouter le soir à 20h et sur Internet, radiocapi.net.
Comment lutter contre le favoritisme dans les universités congolaises? Dadi Matambo, de Kinshasa, bonjour.
Oui, bonjour, j'ai dit.
On vous écoute, Dadi.
Bon, je dois tout simplement dire à notre invité qu'il doit et connaître que moi, j'ai quand même la grâce de passer à l'université et j'ai terminé. Mais je dois lui dire que dans nos universités, que ce soit des universités publiques ou privées, vous voyez que la plupart des corps académiques, vous constaterez qu'à 80% ou 90%, ce sont plus les enfants d'abord, ou encore les membres des familles de ces professeurs-là, qui cherchent à tout prix à ce que ses propres fils deviennent aussi des professeurs, ou encore ses cousins, ses oncles, etc. Quant à la proposition pour lutter contre les favoritismes à l'université, moi je pense qu'il faut instaurer un système comme ça se fait aux humanités pour les années d'État. Moi j'ai toujours pensé que la mère des solutions, on peut beau plier, on peut beau parler, mais la mère des solutions serait la mise en place d'un centre national qui sera chargé de la correction des examens des universités. Là, ça permettra au moins de lutter contre ce phénomène.
La mise en place d'un centre national de correction.
Ouais, ouais. Mmh. En mettant ce centre, moi, je pense que ça va résoudre un certain nombre de problèmes.
Merci, Dadi Makambo, pour cette proposition. Luc Minga nous appelle de Kolwezi, au Katanga. Bonjour.
Bonjour, Jody. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Kati.
On vous écoute, Luc.
Bonjour aussi à l'invité. Ma préoccupation est celle-ci. À la fin de cette année académique, c'était le 4 où à l'université de Kolwezi il y a eu collation des grades.
Mmh.
Dans une des facultés dont j'étais la dénomination, il y a eu un étudiant qui, certainement, il n'est pas du coin, il a obtenu comme pourcentage 69,8 dixièmes. Et alors, avec ça, l'étudiant lui se plaint qu'il aurait eu une distinction, la mention distinction. Néanmoins, cela ne lui a pas été accordé. Maintenant, ma question est de savoir, est-ce que l'invité peut nous éclaircir lorsqu'il s'agit de la délibération? Qu'est-ce qu'il faut nécessairement faire ou qu'est-ce qui serait fait pour ce tel étudiant qui se plaint aujourd'hui? Et à part, concernant aussi, lorsqu'il faut être retenu comme assistant, professeur, donc assistant à l'université, combien de distinctions faut-il réaliser? Parce que nous remarquons qu'il y a des étudiants, non, plutôt des assistants, qui n'avaient jamais réalisé de distinctions au cours de leur parcours occidental à l'université. Mais alors aujourd'hui, ils sont assistants. Alors, que si le professeur peut nous éclaircir là-dessus.
Merci Luc Nida. Professeur Célestin.
Oui, concernant les assistants, je crois que c'est très simple. Le règlement actuellement dit qu'il faut avoir distingué au moins deux ou trois fois. Ça, il faut qu'on s'en tienne à ça. Pour celui qui a eu 69,8, là, c'est une matière à discussion. Puisque le jury peut décider de pratiquer comment je dirais une sorte de péréquation et faire en sorte que parmi les professeurs présents quelqu'un accepte de modifier sa cote en faveur de l'étudiant de sorte que ce soit sur les papiers, donc sur la fiche de cotes ou dans la décision finale, on puisse lui dire qu'il a passé avec distinction. Quand on est au-delà de 69,5, cette discussion peut avoir lieu et la discussion peut toujours bénéficier à l'étudiant, peu importe son origine, sa qualité, son appartenance à la région où l'université est implantée ou pas. Donc là, on pouvait bouger. Mais je ne sais pas pourquoi, dans ce cas précis, le jury ne s'est pas prononcé en faveur de l'étudiant. Mais sinon, il peut se plaindre. Malheureusement, quand la décision est prise, personne ne peut venir la modifier après, du moins quand on respecte le règlement.
Donc là, mais lorsque le jury prend une décision, il y a une possibilité d'introduire un recours. On peut introduire un recours.
On peut introduire un recours. Dans les règles prévues, suivant la procédure prévue par le règlement de l'université en question. Mais on ne peut pas dire d'emblée, quel que soit le cas, sinon n'importe qui, même une autorité judiciaire peut venir dire « je vous impose de donner à tel étudiant telle mention », cela ne se fait pas. Mais le jury est toujours souverain. dans sa souveraineté, il a des plages aménagées pour pouvoir donner satisfaction ou faire droit aux réclamations de l'étudiant.
Voilà. Nous avons en ligne Henri Zanzi de Bandeauville, mais il y a Daddy Matambo de Kinshasa qui dit que pour résoudre ce problème, lutter contre le favoritisme, il faut mettre en place un centre national des corrections
des c'est une proposition intéressante. Hein. L'embêtant, c'est que le programme à l'université n'est pas aussi fixe qu'au niveau du secondaire. Au secondaire, les matières sont bien définies. Mais à l'université, comme il ne s'agit pas simplement de transmettre ce que la tradition a déjà établi, mais de pousser aussi à la création, il est difficile de mettre en place un centre national qui serait sensible même aux innovations. Ça, c'est très difficile. Enfin, si on veut tenter, on a qu'à le faire, mais je sais qu'au début de l'université d'Ovanium, par exemple, quand on a eu les premières promotions, il y avait des professeurs de l'Université catholique de Louvain qui venaient interroger. Mais là, ils étaient encore dans le doute pour voir si l'enseignement pratiqué à l'Ovanium était l'équivalent de l'enseignement pratiqué à Louvain. Et c'était très bien pour les Congolais de l'époque, puisque les professeurs belges qui venaient étaient toujours agréablement surpris par la qualité de réponse des Congolais à l'Ovanium.
Alors, professeur, il y a un auditeur qui nous propose, qui a fait une proposition. Il dit il serait intéressant, par exemple, lors des délibérations, que les jurys soient constitués des personnes, des membres venus d'un autre établissement, et ainsi de suite. Ça permet de lutter contre les favoritismes et d'autres mauvaises pratiques.
C'est ce qui se fait, par exemple, au niveau des thèses et de doctorat, où il faut toujours un membre, au moins un membre extérieur à l'université. Donc, l'idée, le principe n'est pas mauvais. L'embêtant, là, je ne veux pas trop avancer, mais l'embêtant, c'est que vous ne savez pas comment vous allez honorer les services de personnes ainsi invitées quand il y a une population extrêmement grande, par exemple pour les finalistes de licence ou les finalistes de graduat. Là, ce sont de modalités à aménager plus tard. Mais le principe n'est pas à exclure. Avoir des témoins objectifs qui viennent ailleurs.
Bien, nous avons deux auditeurs en ligne, Henri Nzanzi de Bandeauville et Didi Mangala de Kinshasa. Henri, bonjour.
Bonjour, monsieur Jody, et bonjour à tous les auditeurs de la radio du Papé, et bonjour à notre invité qui est sur le plateau.
Quelle est votre préoccupation?
Bon, ma préoccupation, ce sont des par rapport à. On remet des études sanitaires, on pensait que les études sanitaires. Pour ceux qui s'appliquent brillamment à l'école, ceux qui sont tous les jours qui participent, chaque jour au cours, et à la fin de l'année, ne se retrouvent pas la même fille qui ne venait pas. Ça, c'est la première question. Il y a ceux qui venaient au cours et qui participaient, vous voyez, ils passent à la fin de savoir quel conseil vous pouvez nous donner à ceux qui participent. C'est moi qui offre l'université.
Merci Henri Nzanzi. Didi Mangala de Kinshasa, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. J'ai dit bonjour à l'invité et bonjour aux auditeurs de la radio au Capi. Je suis le président des étudiants, coordinateur des étudiants de l'Institut supérieur d'architecture.
Okay.
Je suis en train de soutenir le fait qu'aujourd'hui, il existe le favoritisme au sein de nos différents établissements d'enseignement supérieur et universitaire. Parce que j'ai un témoignage personnel. Je suis en première licence aujourd'hui, mais lorsque j'étais en troisième graduat, j'avais repris l'année, j'avais 60% et un seul échec, un échec léger dans un cours qui est capital ici chez nous, le cours d'architecture, c'est un cours qui englobe 50% de tous les autres cours. J'avais un échec léger de 8, avec 60%, mais il s'est fait que la délibération de la deuxième session, des gens qui avaient même des échecs un peu plus graves que moi sont passés et moi j'ai repris l'année. C'est resté comme pour moi un mauvais souvenir et je comprends qu'il y a des favoritismes en fait. Parce que si on avait tenu compte des critères de délibération, je serais le premier à être délibéré. Mais alors, je soutiens le point de vue du camarade qui avait déclaré qu'il fallait qu'il y ait un centre national de correction, si cela est hypothétique, comme disait tout à l'heure le professeur, il faut alors qu'au niveau de nos établissements, qu'il y ait une organisation qui gère les corrections des examens. voyez, et l'enseignement ne soit pas le seul, l'enseignant ne soit pas le seul maître, parce que lorsqu'il corrige, il y a deux fois, vous voyez la feuille de deux étudiants, en fait, les réponses sont pratiquement les mêmes, il y a l'un qui réussit, l'autre échoue. Et puisqu'il y a beaucoup d'étudiants, on ne sait pas suivre jusqu'au moindre détail. Nous, nous sommes en train d'éviter dans notre établissement, il y a beaucoup d'améliorations dans ce sens-là, mais ces problèmes-là restent réels. Si au niveau national, on ne peut pas régler ça, mais au niveau des établissements, le ministère peut arrêter une loi disant que les corrections des examens soient contrôlées par l'ensemble des corps professoral au sein des établissements.
Merci Guigui, à Mangala de Kinshasa. Professeur Dimanja.
Oui, ce qu'il dit est juste. Hein. En principe, il ne faut pas tout laisser au seul enseignant, surtout dans les universités où nous avons des promotions populeuses, hein, comme on l'appelait de notre temps les Chines populaires.
Oui.
Là, c'est difficile. Un seul individu de corriger 1500, 2000 copies, c'est compliqué. Mais ça, il doit y avoir des aménagements internes. Le professeur doit être bien entouré à partir de la conception de l'examen. Il donne des questions. Il prépare toute l'équipe avec laquelle il va travailler pour expliquer dans quel sens et avec quel moyen de prudence il faut considérer chaque copie. Là, le travail peut se faire. Quant au cas qu'il a cité d'abord, pour l'échec léger, je n'ai pas bien compris, est-ce que c'est dans un cours d'option ou bien dans un cours quelconque? Là, c'est différent. Chaque établissement détermine quelle est la pondération pour les cours d'option, donc celles de ceux qui rentrent dans la filière et d'autres qui appartiennent par exemple à la culture générale. Là, c'est différent.
Oui. Mais à l'entendre parler, c'était un cours d'option. Il a dit 60% et un échec léger de 8 ans.
Mais c'est vous qui dites que c'est léger. Si l'université a dit que le minimum c'est 10, sans quoi vous ne pouvez pas de classe, il faut maîtriser le règlement de votre université. Si cela a été le cas, alors vraiment, je vous demanderai de ne pas continuer à vous plaindre et d'accepter la situation. D'ailleurs, vous l'avez déjà dépassée.
Voilà. Donc, il dit qu'il revient sur la proposition d'un éditeur de mettre en place un centre national de correction des copies d'examen.
Je veux bien. Je vous ai dit que je ne m'y oppose pas. Mais le problème, c'est qu'à l'université, ce n'est pas des matières qui sont définitivement arrêtées. Un professeur ne peut pas répéter le même cours pendant des années. Alors, vous allez rassembler des gens qui probablement n'ont pas la dernière information que le professeur a donnée dans son cours pour qu'ils viennent avec des données antérieures, périmées, dépassées et dire c'est par souci d'objectivité. Non, c'est difficile. Il faudrait dans ce cas qu'il y ait un centre dans lequel on verse toutes les matières enseignées et que ceux qui vont participer à la préparation et d'abord maîtriser tout ce qui a été enseigné pendant l'année. Et vous voyez à quel point ça peut être compliqué pour la mise en place concrète d'un tel dispositif.
Bien, merci professeur Célestin Dimanja. Nous rappelons que vous êtes enseignant à l'Université catholique du Congo. Merci d'avoir répondu à nos questions et à la prochaine.
C'est moi qui vous remercie, Jody.